C'est l'heure de retrouver Pensez donc. Bonjour Laurence Luret.
Bonjour Eric, bonjour à toutes et à tous.
Comment la philosophie peut-elle nous aider à vivre nos vies? Eh bien c'est la question que vous allez poser ce matin à votre invité, le philosophe André Comte-Sponville.
Et oui Eric, on fait un pas de côté ce matin, on laisse le fracas du monde à la porte de chez soi, une fois n'est pas coutume, on prend le temps de penser autrement. Bonjour André Comte-Sponville.
Bonjour.
Alors, faut-il encore vous présenter? Vous êtes l'un de nos philosophes français les plus lus, traduit en 24 langues, plébiscité par le grand public, avec notamment votre célèbre Petit traité des grandes vertus, qui était publié il y a 20 ans maintenant déjà. Vos ouvrages, plus d'une trentaine, ont réconcilié beaucoup de lecteurs avec la philo, et cette fois-ci, vous esquissez une philosophie plus intimiste avec ce livre, L'Inconsolable et autres impromptus, c'est son titre. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est un impromptu? En musique, j'ai une petite idée, mais alors en philosophie, pas du tout.
Alors, j'emprunte ce titre à Schubert, qui a fait les plus beaux impromptus. Alors, les impromptus de Schubert, c'est une musique facile d'accès, intimiste et d'une tonalité légèrement mélancolique. Eh bien voilà, j'appelle impromptu les textes que j'écris, qui sont en effet très faciles d'accès, qui sont intimistes au sens où j'y parle de moi en tant qu'individu beaucoup plus que dans mes livres plus techniques, et qui sont en effet d'une tonalité légèrement mélancolique, parce que mélancolique je suis en effet.
Alors c'est vrai, André Comte-Sponville, que vous vous livrez davantage dès la première phrase de ce livre, vous donnez le ton. « Je n'ai jamais su consoler, les femmes me l'ont parfois reproché, confiez-vous. » Alors la philosophie n'est donc pas consolatrice ?
Non, et d'ailleurs moi je n'aime pas les philosophes qui consolent. Vous savez, j'en parle un petit peu dans ce premier texte. J'ai perdu un enfant, une petite fille qui est morte à 6 semaines d'une méningite foudroyante. Et évidemment, dans l'effarant chagrin qui était le nôtre, à sa mère et moi, tous les philosophes me tombaient des mains. Et j'en parlais avec un ami, mon ancien prof de philo de Cagnes, André Pessel. Je disais, j'arrive plus à lire les philosophes, sauf Spinoza. Et Pessel m'avait dit, c'est normal, parce que lui n'essaye pas de te consoler. Et c'est vrai qu'au fond, ce thème de la consolation, je me suis rendu compte qu'en effet, je n'ai jamais su consoler, que les femmes avec qui j'ai vécu, en effet, me l'ont parfois reproché, mais qui plus est que je n'aime pas tellement être consolé. Parce qu'on peut consoler, oui, un enfant qui s'est fait un bobo, on lui fait un câlin, un bisou, on le fait penser à autre chose, mais quand on est vraiment au fond du malheur ou de la souffrance, un enfant qui va mourir, comment allez-vous le consoler? Les parents de cet enfant, comment allez-vous les consoler? On ne peut pas les consoler. Et donc ce que j'appelle l'inconsolable, c'est pas moi comme individu qui serait inconsolable, c'est plutôt qu'il y a de l'inconsolable dans nos vies. Il y a de l'inconsolable dans la condition humaine. Alors on y est confronté plus ou moins tôt, mais on y sera forcément confronté. Ça veut dire que aimer la vie, ça n'est pas seulement aimer le bonheur. Bien sûr, c'est plus facile d'aimer la vie quand elle est agréable, quand elle est heureuse.
C'est quand même plus sympa.
La vraie sagesse, la sagesse de Montaigne, par exemple, c'est pas d'aimer le bonheur. Pas besoin d'être sage pour aimer le bonheur. N'importe quel crétin est capable d'aimer le bonheur. La vraie sagesse, ça n'est même pas d'aimer la sagesse. Je dirais n'importe quel philosophe en est capable. Non, la vraie sagesse, c'est d'aimer la vie. Heureuse ou malheureuse, sage ou pas, et bien sûr, aucune vie n'est heureuse ou sage dans son entier. Voilà, et donc, il ne s'agit pas de se morfondre dans le malheur, surtout pas. Hein. C'est le bonheur et la joie, bien sûr, qui sont préférables, mais il faut accepter qu'il y a une part de malheur parfois dans l'existence, ce qu'on appelle le tragique en philosophie. Il faut accepter qu'il y ait de l'inconsolable dans nos vies, justement pour aimer la vie telle qu'elle est, et donc pour être heureux quand tout va à peu près bien, et pour traverser peut-être un peu mieux le malheur quand tout va mal.
Ça veut dire qu'il faut davantage accepter nos vies telles qu'elles sont que plutôt avoir l'espoir de les améliorer, par exemple ?
Oui, vous savez, il y a une phrase de Flaubert qui m'a toujours donné à réfléchir, moi qui ai beaucoup travaillé sur le bonheur. Dans une lettre à l'un de ses amis, Flaubert écrit « Ce redoutable petit mot « bonheur » qui fit couler tant de larmes ». C'est qu'au fond, les gens se disent « je ne suis pas heureux » et hop, ils fondent en larmes. Et je crois qu'au contraire, pour être heureux, il faut accepter de ne l'être pas toujours. Et que peut-être pour être heureux, il faut renoncer au bonheur rêvé, le bonheur constant, permanent, immuable, ce que j'appelle la félicité, qui bien sûr n'existe pas, ça n'est qu'un rêve. Le bonheur, au fond, c'est quoi? C'est le contraire du malheur. Le malheur, c'est quand la joie est impossible. Le bonheur, c'est quand la joie est non pas toujours réelle, mais continuellement possible. Au creux du malheur, ça n'est pas possible. C'est ça, le vrai malheur.
André Comte-Sponville, une sorte de mélancolie traverse la plupart de vos livres. Comment la philosophie vous est-elle redonnée le goût de vivre dans ce dur apprentissage de vivre, je vous cite?
Peut-être en m'éclairant sur l'amour de la vérité. Au fond, ce que j'ai fini par découvrir, c'est que c'est l'illusion qui rend malheureux. Et je l'ai découvert avec ma mère, qui était elle-même dépressive et qui d'ailleurs est morte d'un suicide, mais là j'étais adulte. Quand mon premier livre est publié, l'une des premières lettres de lecteur que j'ai reçues m'est envoyée par un psychanalyste qui me disait qu'il était d'accord avec moi dans la critique que je faisais de l'illusion, de l'espérance, de tout ce qu'on se raconte, parce que, me disait-il, en tant que thérapeute, je constate que l'espérance est la première cause de suicide. On ne se tue que par déception, me disait-il. Et ça m'avait frappé parce que même au fond, il a raison, maman s'est tuée par déception. Elle s'est tuée parce qu'au fond, depuis des années, des décennies, la vie ne correspondait pas aux espoirs qu'elle s'en était fait. Mais je vais vous dire, la vie ne correspond jamais aux espoirs qu'on se fait. S'il y a quelque chose qui est clair, c'est bien ça. Sauf que certains, constatant que la vie ne correspond pas à leurs espérances, on conclut que c'est la vie qui a tort. Mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire que la vie est tort? La vie, elle est ce qu'elle est, elle fait ce qu'elle peut. Moi, mon idée, c'est que quand la vie ne correspond pas à nos espoirs, c'est pas forcément la vie qui a tort, c'est plus souvent nos espoirs qui sont vains, infondés, illusoires. Et donc, comme je dis souvent, il s'agit d'espérer un peu moins pour aimer un peu plus. Non pas se morfondre dans le désespoir au sens dépressif du terme, mais accepter de voir les choses comme elles sont, prendre sa vie en main et essayer de vivre le plus joyeusement que l'on peut.
Merci André Comte-Tronville pour ces quelques minutes en votre compagnie. Je renvoie les auditeurs à ce livre délicieux qui se lit comme un roman. Et puis bien sûr, pour celles et ceux qui nous rejoignent, eh bien pensez donc, c'est aussi sur notre site Eric.
Oui, et je rappelle le titre de votre livre André Comte-Tronville, ça s'appelle « L'inconsolable et autres impromptus ». C'est publié aux éditions Presse Universitaire de France.